Chapitre 58. Comment elle peut être vivante, Frank? Alors qu'il roulait en direction de l'université Vézal, Charcot n'avait aucune réponse à offrir à Lucie. La discussion sur l'écran de l'ordinateur était à sens unique. Eux n'avaient pas pu se manifester. Elle affichait un historique d'environ un quart d'heure seulement, après quoi les lignes disparaissaient par le haut. Une suite de phrases étranges, glaçantes, de mots souvent incohérents. Une fois, Eudotie avait supplié qu'on la délivre. Dans le chaos de ses propos, elle parlait parfois de ténèbres, de noir absolu, d'impression de flotter et de couler en même temps. Sans perdre une minute, Frank avait joint leur expert en informatique pour qu'il rapplique. Il fallait identifier l'endroit d'où ces messages provenaient. Largement perturbée, Lucie regardait droit devant elle, sans vraiment voir la route, avec une peur muette au fond des yeux que Frank connaissait par cœur. « Quelle que soit la personne qui tape ces phrases, on va la retrouver, d'accord ?»«
Tu refuses de l'accepter, hein, que ça puisse être Emma. Tu ne peux pas imaginer que... »
Elle se tut, incapable de formuler sa pensée tellement elle lui paraissait à elle aussi insensée. Charcot secoua la tête.
« Il n'y a pas 36 solutions. Ou elle est vivante et son col du fémur a été prélevé je ne sais comment. » Ou elle est morte, ce que je crois plus volontiers, et ce n'est pas elle qui a écrit ça, mais quelqu'un qui se fait passer pour elle. Aujourd'hui, tous les éléments dont on dispose indiquent qu'elle est morte. Et ce dont je suis certain, Lucie, c'est qu'elle ne peut pas être à la fois morte et alimenter une discussion instantanée.
Il crispa ses doigts sur le volant. La réalité, c'est qu'il n'était pas du tout aussi sûr de lui. La grande faucheuse planait sur leur enquête. Chaque pas qu'il faisait les plongeait davantage dans l'incompréhension. Le flic en lui ne pouvait envisager qu'on puisse communiquer avec des défunts. Pourtant, il voyait bien que Lucie, elle, avait envie d'y croire, qu'elle espérait au plus profond d'elle-même qu'un pont puisse être établi entre notre monde et l'après. Parce qu'à l'autre bout se trouvaient peut-être ses jumelles, Clara et Juliette, qui l'attendaient, pleines de chaleur et d'amour. Frank lui glissa une main sous le menton, caressa son visage.
Les réponses ne sont pas loin et, quand tout ça sera fini, on se prendra des vacances tous les quatre avec les enfants. Ça fait longtemps. Dans quel coin tu voudrais partir? Mer, montagne?
Les deux,
lança-t-elle avec un sourire triste. Quelques minutes plus tard, au détour d'une courbe, se dessinèrent les premiers contreforts du complexe universitaire sous un rideau de pluie. Charcot avait jeté un coup d'œil sur Internet et savait que les longues langues grisâtres de béton sur leur droite correspondaient à l'internat des étudiants. Le centre du don des corps se situait plus en retrait, dans la forêt d'Alate, à l'écart de la faculté. Les morts n'étaient jamais les bienvenus, même dans une fac de médecine. Quant au pôle de recherche, il bénéficiait d'une voie d'accès réservée qui contournait les innombrables bâtiments dédiés à l'enseignement. L'ensemble était détaché de la ville. Creil était à 6 kilomètres à vol d'oiseau, si bien qu'autour ne s'étalaient que les bois et la masse infinie des champs. À part bûcher, les jeunes ne pouvaient pas faire grand-chose. Faculté André Vézal, sciences médicales et pharmaceutiques, Institut du cerveau, Hauts-de-France. Ils doublèrent le panneau blanc planté sur un côté et s'engagèrent sur une route sinueuse. Bordée de solides hêtres, celle-ci devait être agréable l'été, mais, dans la lumière déclinante, les arbres nus fouettés par les bourrasques lui conféraient en ce jour un air de fin du monde. Lorsque l'Institut se matérialisa enfin devant eux, il était déjà plongé dans la pénombre. En forme de fer à cheval, ce dernier était équipé de fenêtres au verre fumé. Il s'élevait sur 2 étages et était doté d'un vaste parking aux 3/4 plein. Une armée de cerveaux qui étudiaient l'organe ô combien complexe qui lui-même leur permettait d'étudier. Une sorte de serpent se mordant la queue. Frank et Lucie sortirent de leur véhicule les nerfs à vif. Des portes automatiques ouvraient sur un hall protégé par des portiques nécessitant des badges d'accès. Un truc ultra-moderne, truffé de caméras et d'écrans diffusant des modélisations du cerveau. Charcot songea à ce film « Bienvenue à Gattaca » où les employés fournissaient un échantillon de sang chaque fois qu'ils franchissaient les barrières.
Sur la gauche, une hôtesse, assise derrière un espace vitré, les invita à approcher. Carte de police, brèves explications, puis Charcot conclut.
« Appelez-le, mais ne précisez surtout pas qu'il s'agit de la police. Vous lui dites juste qu'il doit passer à l'accueil pour un problème de badge. »
La femme s'exécuta, mais raccrocha au bout de quelques secondes l'air renfrogné.
Son poste ne répond pas. Dans ce cas, faites venir quelqu'un qui travaille avec lui.
Alors qu'elle obtempérait sans discuter, Franck échangea un regard crispé avec Lucie. Malheureusement, le moment de l'interpellation n'était pas pour maintenant.
Sa chef d'unité arrive, fit l'hôtesse.
La femme qui se présenta, Karine Millot, la soixantaine bien tassée, courte sur pattes, portait un vieux pantalon de toile et un pull kaki en laine qui semblait directement sorti d'un entrepôt Emmaüs. Ses cheveux grisonnants, coupés au carré, encadraient un visage tout en os, comme si un scalpel avait gratté les excès de chair. Se gardant bien de lui livrer des détails, les flics lui exposèrent la raison de leur visite.
« Marc, il est absent depuis hier. Ce n'est pas dans ses habitudes. J'admets que j'étais un peu inquiète, alors j'ai essayé de le joindre, en vain. Il a des ennuis ?»
Franck enragé. Suite à l'épisode de la cabane, Victor s'était-il senti menacé au point de prendre la fuite ou de se cacher? Attendait-il quelque part que les choses se tassent?
Il n'était pas à son domicile, indiqua Charcot. Avez-vous une idée de l'endroit où il pourrait être?
Pas la moindre, non. En même temps, Marc n'est pas un grand bavard. En dehors de son travail, il n'y a pas grand-chose qui compte.
Nous aurions besoin de connaître la nature de ses recherches. Vous pourriez nous en parler?
Je vais vous montrer. Par contre, vous ne m'avez toujours pas expliqué pourquoi vous êtes là.
Ton cordial mais directif. N'entrez pas qui voulait. On pense qu'il est impliqué dans une affaire grave. Cependant, l'instruction en cours ne nous permet pas de vous en dire plus pour le moment.
La scientifique tenta de trouver des réponses dans le regard de Lucie, mais se heurta à un mur. Elle finit par acquiescer.
Très bien. Suivez-moi.